Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients vont bien.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzels.
Oh, bon, merci. Si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
Ah, là, c'est bon.
Depuis toujours, dans ma cuisine, il y a de l'origan. Même plus jeune, dans mes premiers mois d'indépendance, cette plante aromatique séchée trônait déjà sur les étagères Ikea de mon studio, au milieu d'autres flacons en verre Ducros, prêts à assaisonner n'importe quel plat de pâte d'étudiant. Mais soyons honnêtes, je ne me suis jamais dit non plus « Ah, l'origan, j'adore ça !» C'est plus une herbe que j'ajoutais machinalement à mes préparations, parfois via un mélange dit « herbe de Provence » aux côtés du romarin, de la sarriette et du thym, ou encore dans un bouquet garni, acheté tout fait en prévision d'un pot-au-feu. Bref, longtemps, l'origan allait toujours de pair avec d'autres aromates et je n'avais pas forcément son goût en tête. Tout au mieux, j'associais ces petites feuilles moulues au fond de pizza et aux olives marinées. Ce n'est que ces dernières années que j'ai pris conscience de la puissance de l'origan. Légèrement poivrée et amère, cette herbe sublime n'importe quelle sauce tomate, relève une soupe et donne du peps à toutes les marinades de viande, en particulier celles des brochettes souvlaki, ces brochettes de porc marinées à la grecque. Originaire des montagnes du bassin méditerranéen, l'origan servait déjà à assaisonner le poisson chez les Grecs dans l'Antiquité. Plus tard, au Moyen-Âge, il aurait été utilisé par les sorcières pour chasser le diable. Pour nous parler d'origan, nous avons invité en deuxième partie d'épisode Noa Baz, pédiatre le jour et ambassadrice de la gastronomie libanaise dans les heures qui lui restent pour terminer une journée. Noa a écrit « Le Zaatar, 10 façons de le préparer » aux éditions de l'Épure. Et ça tombe bien, puisque dans le Zaatar, on trouve justement de l'origan. Très à la mode par chez nous ces derniers temps, le Zaatar n'a pas attendu l'avènement de la bistronomie pour être un pilier de la cuisine levantine. Pour Noa Baz, le Zaatar fait partie des souvenirs de l'enfance.
Mon père, tous les matins, nous disait qu'il ouvrait l'esprit, entre guillemets, qu'il fallait qu'on mange du Zaatar le matin avant d'aller à l'école pour bien assimiler les cours. Et il trouvait que le Zaatar ouvrait l'esprit, donnait de la vivacité aux neurones. Il fallait absolument en prendre tous les matins. Le jour où j'ai passé mon bac, il m'a dit « Est-ce que tu as bien mangé du Zaatar ?»
Mais avant ça, je me suis rendue chez Rapp, une épicerie italienne à Paris, tenue par Alessandra Pierini, gastronome qui parle toujours des produits de sa boutique avec la précision et l'enthousiasme des passionnés. Ce que j'aime avec Alessandra, c'est sa façon de lier gourmandise et paysage, parce que alimentation et terroir ne vont pas l'un sans l'autre.
Alors, je suis d'ailleurs d'origine italienne d'une région qui est la Ligurie, de Gênes, et c'est une région de prédilection déjà de toutes les herbes aromatiques. Donc, l'origan a bercé un petit peu mes goûts d'enfance, et surtout dans deux recettes que j'adore et que je mange toujours à chaque fois que je vais sur place. C'est le pancotto. Le pain cuit, c'est une recette très très simple et très populaire de tranches de pain qui a déjà quelques jours, un petit peu rassis, qu'on fait frire dans une huile dans laquelle l'ail et l'origan ont infusé un petit moment. Donc c'est un pain qui se mange comme ça, croustillant, à n'importe quel moment. Nous les Génois, nous aimons beaucoup le salé plutôt que le sucré. Et après il y a la sardinaira. Qui est une sorte de focaccia. On dirait comme ça à l'œil que ça peut paraître une pizza, mais il faut surtout pas l'appeler comme ça. Non, on l'appelle la sardinaira, c'est une focaccia avec de la tomate cuisinée et aussi pas mal d'anchois, toujours de l'ail et beaucoup d'origan frais en saison et on met sinon l'origan séché en saison hivernale.
D'accord. Donc, ces deux préparations qui vont très, très bien avec l'origan aussi, parce que l'origan vient peut-être apporter un peu de fraîcheur ou alors un goût...
Fraîcheur, mais surtout du parfum. L'origan, c'est vraiment quelque chose qui est ramassé généralement dans les endroits un petit peu de sécheresse, un petit peu rocheux. Donc, c'est une plante qui dégage énormément de saveurs, donc qui n'a pas puisé d'eau. Donc, les arômes sont très, très concentrés et surtout un grand parfum. Et c'est pour ça donc, qu'on l'utilise. On l'utilise très bien frais, qu'on met en dernière minute sur les préparations, ou bien séché en le laissant un tout petit peu infuser dans les recettes pour qu'il dégage vraiment bien son arôme.
D'accord. Et il y a donc fraîche, séchée, vous l'avez dit, moulue aussi?
Moulue, Oh oui, en poudre, ça peut se faire. Moi, je préfère le ramasser frais quand on a la chance donc, d'aller dans les collines ou sinon l'acheter en saison. C'est entre mai et le mois de juillet qu'on peut le trouver frais sur les marchés. Ensuite, je le fais juste sécher comme ça, à température ambiante, généralement à l'abri de la lumière, dans un sac en papier. Et après, je les frite, je les miette. Je préfère le faire comme ça. Et sinon, en poudre, je le fais à la dernière minute parce qu'il perd quand même un tout petit peu de son arôme si on le fait trop en avance.
Ah oui, d'accord. Le contact avec l'air peut-être avec altère l'air, le goût.
Ça, oui, ça le sèche trop finalement et les arômes se perdent un petit peu. Mais on consomme aussi très bien les fleurs. La fleur qui est très, oui. très jolie, toute petite, blanche et légèrement rosée. On les trouve, les inflorescences, toujours à la fin du printemps. Ça a un goût un tout petit peu plus subtil que la feuille. Mais ça fait très joli dans les salades et dans les omelettes.
Et alors nous ici, quand on pense aux feuilles d'origan, forcément, on a en tête cette image mentale des fonds de sauce tomate dans les pizzas. C'est évidemment oui. pas la seule façon d'utiliser l'origan.
Absolument, mais disons qu'on peut dire que l'origan, c'est un peu l'herbe aromatique qui remplace le basilic en hiver ou quand le basilic n'est plus de saison. Parce que l'origan, il est aussi bon frais que séché. Chose qui n'est pas pareille avec le basilic. Le basilic séché est beaucoup plus amer, beaucoup plus fort. Donc, l'origan, on le remplace dans les recettes hors saison. Donc, ça va très bien dans la tomate, mais super avec des marinades de poissons. Je pense au thon, à la dorade. Et sinon, ça va très bien avec le poulet, les viandes blanches, la dinde. Moi, je fais très souvent du poulet avec origan, jus de citron, de zeste de citron râpé, un tout petit peu d'huile d'olive et un peu d'ail.
Ça, merveilleux, ça a l'air délicieux. Recette.
Ah oui, c'est très, très bien. On peut même le poulet le faire mariner avant de le cuire. Après, juste le saisir à la poêle. On le mange même froid. On peut mettre un petit morceau dans une salade l'été. C'est très parfumé.
Alors, vous avez dit que l'origan était un très bon remplaçant du basilic. Est-ce que ça veut dire que dans le cœur des Italiens et des Italiennes, le basilic passe quand même un peu avant?
Disons que le basilic, c'est vraiment l'herbe aromatique qu'on emploie partout en Italie. Alors que l'origan, ça a quand même des racines dans le sud de l'Italie, dans les régions comme la Sicile, la Calabre, les Pouilles, celle qui était la Magna Grecia, donc dans le temps, parce que l'origan, c'est quelque chose qui nous vient des Grecs. Oui. Apparemment, les légendes disent que ça serait Aphrodite qui l'aurait planté au sommet de l'Olympe. Donc, c'est une herbe. Donc, le mot, l'origine, ça vient du grec. Ça veut dire merveille, splendeur des montagnes.
D'accord.
Donc, peut-être que cette légende a quand même aussi un fond de vérité. Et donc, ce sont les Grecs apparemment qui l'ont fait venir chez nous. Et donc, il y a beaucoup de recettes du sud de l'Italie dans lesquelles il est employé. Et c'est dans le nord, c'est arrivé qu'au moment où la pizza a commencé aussi à migrer. Elle est arrivée aussi dans les régions du nord de l'Italie. Et on a commencé à utiliser aussi cette herbe.
Via la pizza, alors, d'accord.
Via la pizza, oui.
D'accord, oui. Donc, j'ai lu aussi que donc, l'origan est un héritage de la présence grecque en Sicile. Également, les olives et l'aubergine, visiblement. Le
triptyque.
Oui.
D'ailleurs, ils vont très bien ensemble. Les aubergines, on peut les faire mariner, juste d'abord couper un petit cube, les frire. Et on peut les faire mariner avec de l'origan, de l'huile d'olive, de l'ail. Et l'origan, on le laisserait à ce moment-là en branche.
Ah oui,
en branche entière. Il faut savoir que dans le sud de l'Italie, et notamment en Calabre, donc c'est vraiment le berceau de l'origan, quand vous allez chez les gens, pour la première fois, on vous accueille avec un gros bouquet d'origan frais. C'est quelque chose de magnifique, on dirait presque un bouquet de mariée découpé, rond et très, très parfumé. Et donc, moi, j'en garde comme ça à la maison, je peux l'utiliser toute l'année. En fait.
Est-ce que ce ne serait pas l'équivalent du gros bouquet de lavande en Provence?
Absolument,
ouais.
Absolument. Ça fait un petit peu ça et ça se fait toujours. Et il y a aussi une recette très, très ancienne en Calabre qui est assez étonnante. Ce sont des pâtes qu'on fait, ça s'appelle la dromsa. Ce sont des pâtes qu'on fait avec de la semoule de blé et on incorpore l'eau avec des branches d'origan qu'on trempe un tout petit peu dans l'eau et on dirait qu'on bénit en fait la semoule pour former des petits grumeaux de pâte. Et ces grumeaux, on fait cuire directement dans la sauce tomate.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est très enraciné chez eux, cette culture de l'origan.
Et il paraît que l'origan italien a un goût plus prononcé que les autres types d'origan en Europe.
Oui. D'ailleurs, même en Italie, si l'origan de Sicile n'est pas du tout le même que l'origan de Calabre, l'origan qu'on ramasse en Ligurie, un petit peu chez moi, qui est beaucoup plus délicat, ça dépend beaucoup du terrain, en fait. Hein. Donc, et le climat, bien sûr, fait que chaque variété pousse d'une façon différente et pas au même endroit, et qui a aussi un goût, et surtout, ils ont un aspect différent. En Sicile, ce sont des grappes en fait de feuilles très épaisses et très importantes, alors qu'en Calabre, par exemple, ce sont des toutes petites feuilles sur une branche, plus comme celles qui pourraient être des feuilles de thym qu'on pourrait voir chez nous, avec une petite branche légèrement, une branche en bois et avec les petites feuilles. Donc en Sicile, ça fait plus plante presque d'ornement.
D'accord. Donc, selon le terroir, l'origan pourra être plus ou moins corsé, plus ou moins fort en goût.
Oui, et plus mentholé, plus proche de la marjolaine, parce que l'origan et la marjolaine, ce sont deux plantes aromatiques très proches. La marjolaine est moins répandue, ça se trouve pas mal dans le sud de la France, et chez nous en Italie, un peu sur les côtes et dans le nord de l'Italie. Et ce sont deux plantes très proches qui vont très bien ensemble. L'origan va très bien aussi avec le basilic, avec le thym, par exemple. Après, l'ail, l'anchois, par exemple, il y a des choses avec lesquelles se marie très bien. Les courgettes, les fenouilles en hiver, quand il est séché.
Ah oui.
Juste revenu avec du beurre et l'origan, c'est très bien. Et puis, il ne faut pas oublier les tisanes.
Oui.
Je prends très souvent aussi des tisanes de thym et d'origan séparément ou ensemble. C'est très bien pour les petits bobos d'hiver, pour les voies respiratoires.
D'accord.
C'est un antibiotique naturel. Donc, il faut vraiment en consommer et pas avec modération.
Oui, c'est vrai qu'on le sait que toutes ces herbes aromatiques ont chacune leur vertu médicinale et que longtemps, on les a utilisées comme médicaments finalement dans la vie quotidienne.
Absolument, c'est qu'on ne les connaît pas assez. Peut-être qu'on pourrait développer vraiment, il y a beaucoup d'aromathérapie et de phytothérapie avec toutes ces plantes, mais peut-être juste le fait de l'utiliser un peu plus souvent en connaissant un petit peu leurs propriétés, ça serait très intéressant pour nous et ça nous éviterait peut-être plein de petits bobo
oui.
qu'on n'aime pas avoir.
Je trouve qu'il n'y a jamais qu'en Italie que l'origan a vraiment ce goût, ce pouvoir de rehausser un plat. Je ne sais pas si c'est dans mon esprit, parce que quand je suis en Italie, du coup, peut-être j'ai envie de sentir que l'origan a plus de puissance. Mais en tout cas, vraiment, je me formule à chaque fois ce constat, qu'il a vraiment un pouvoir de rehausser. Et ce n'est pas juste en fait, une herbe qui va ajouter un petit goût en plus, comme ça peut être parfois le cas ici en France.
Oui, mais c'est vraiment une partie intégrante en fait, des recettes. Et donc, l'origan, ce fait qu'il soit aussi parfumé, parce que je pense que c'est surtout un terrain propice pour le développement de cette herbe aromatique. Et le fait qu'elle soit vraiment intégrée dans la tradition culinaire italienne, on a plus de facilité aussi à l'utiliser très facilement dans notre cuisine. Enfin, des entrées au plat, à l'apéritif. Si on pense que n'importe quelle pâte feuilletée, une pâte à pain, avant de la mettre au four, ça suffit juste d'intégrer un tout petit peu d'origan séché ou d'origan frais. Ça va parfumer beaucoup la pâte. Et avec la cuisson au four, tous les arômes se développent. Ça fait un petit pain d'accompagnement délicieux.
Et au milieu du basilic, du romarin, du laurier, quelle est la spécificité de l'origan dans tout ça?
En fait, l'origan va très bien dans les sauces tomates qui vont accompagner plutôt les pâtes. Alors que, par exemple, le laurier, on le mettrait plutôt dans des plats mijotés de viande. Le basilic, c'est vraiment l'herbe qu'on met vraiment à la dernière minute à la sortie du four et qu'on peut mettre pas que dans la sauce tomate, hein, ça va très bien. Le basilic, ça va être, et selon les régions, n'est pas le même. On utilise du basilic, par exemple, dans le pesto génois, où c'est beaucoup plus délicat. Et on utilise l'origan plutôt dans les farces ou la cuisson, quand même, dans les farces de ravioli. Par exemple, avec de la ricotta, parce que ça va très bien avec tous les fromages frais, de la feta en Grèce, à la ricotta, à la brousse dans le sud de la France. Et pour la farce des raviolis, l'origan est vraiment délicieux et ça tient bien à la cuisson. Donc, son arôme se garde parfaitement.
Et comment on pourrait décrire cet arôme selon vous?
C'est un peu l'arôme, le parfum, l'odeur qui serait dans le maquis. C'est ce mélange très végétal un peu d'arbuste. C'est un arbuste, en fait, l'origan, qui aurait un mélange légèrement parfumé qui ressemble un tout petit peu à la menthe, qui s'approche un peu plus du thym, je dirais, mais qui a quand même une note légèrement citronnée.
Je trouve ça hyper drôle de savoir que dans la cuisine italienne, l'origan est un peu le sidekick du basilic, soit l'herbe qu'on a commencé à dégainer surtout quand on manquait de l'autre en hiver. Mais comme dans certains films sur la mafia, on sait que le numéro 2 peut toujours, à un moment ou à un autre de l'intrigue, dépasser le numéro 1. Il paraît que lorsqu'on cuisine de l'origan frais, il faut le faire cuire au moins 15 minutes pour dégager tous ses arômes. Mais séché, l'origan développe plus rapidement ses saveurs. C'est notamment ce que l'on peut observer dans le za'atar, ce mélange d'épices qu'on retrouve partout dans la cuisine levantine. Les recettes de za'atar sont nombreuses, mais en général, on y trouve toujours du sumac, des graines de sésame et, justement, de l'origan. Lorsque Noa Baz nous a rejoint chez Nouvelles Écoutes ce matin-là, on ne l'a pas loupé. Elle a foncé dans notre cuisine en riant, s'est mise à sortir de son cabas des petits sachets et avec une délicieuse huile d'olive et des tranches de pain de campagne qu'elle avait aussi apportées, elle nous a préparé des petites tartines de za'atar que l'on consomme dès le début de la journée au Liban.
Le za'atar, c'est les petits déjeuners. C'est le moment où le soleil se lève, la lumière est en général magnifique. Et même quand il n'y en a pas, le za'atar réussit à ensoleiller nos matins. Ce sont des souvenirs d'école. On allait à l'école, le za'atar était sur la table du petit déjeuner, mais de toute façon tous les matins. Et puis quand arrivaient les galettes chaudes livrées tous les matins avec le pain chaud, que cette odeur remplissait la maison de cette odeur de pain et de ce condiment qui est en fait très parfumé, le départ à l'école était beaucoup plus facile.
Pour voilà. Tous les enfants à Beyrouth, alors.
Alors, c'est oui, parce que la manouche, qui est en fait cette espèce de pizza au thym, c'est vraiment l'ADN des petits Libanais. Je pense que si on devait choisir un aliment, à part le taboulé, évidemment, qui est une salade, mais pour un enfant, le za'atar fait très rapidement partie de sa vie, très tôt. Dès 18 mois, on commence à donner des petites bouchées de za'atar aux enfants à travers justement ce petit déjeuner qui est l'équivalent d'un croissant. Et je crois que le seul pays au monde où on mange un croissant au za'atar, c'est le Liban. Ça n'existe pas ailleurs. Il y a certaines adresses qui se sont implantées au Liban, des adresses françaises, qui s'y sont pliées, qui font maintenant des croissants au za'atar. Je crois que c'est surtout l'odeur. L'odeur, le goût, et puis cette odeur de pain chaud et de chaleur matinale mêlée à ce condiment.
Ça se mélange très bien avec l'huile d'olive, alors.
Ah oui, non, mais c'est que avec l'huile d'olive. Alors, ce que vous allez acheter en passant dans les rues, l'huile d'olive coûte trop cher, donc ils vont vous mettre des dérivés végétaux, des huiles, diverses huiles qui sont moins onéreuses. Mais la vraie recette et le za'atar, je pense, ne s'exprime pleinement qu'à travers l'huile d'olive. Moi, j'ai une passion pour ce mélange. Je le mange à toutes les heures de la journée. Quand mes enfants sont nés à Paris, je voulais leur parler d'un pays, en fait, qu'elles n'avaient jamais vu. Et leur premier abord du pays, ça a été le za'atar. Mon petit-fils, qui a aujourd'hui 18 mois, c'est tous les matins za'atar, za'atar, za'atar. C'est peut-être le premier mot qu'il a dit après papa et maman.
Alors, juste voilà. Avant le début de notre conversation, oui. Vous nous avez très gentiment préparé des tartines avec donc de l'huile d'olive et du za'atar dessus. Mmh. Et j'ai trouvé effectivement que l'huile d'olive renforçait vraiment les saveurs du za'atar. Mmh. Et inversement aussi. Mmh. Et il y avait vraiment quelque chose comme ça d'assez subtil en fait et très savoureux qui prend tout le palais en vérité.
Absolument. Moi, je trouve que l'huile d'olive fait vivre ce condiment. Alors, est-ce que parce que au pied d'olivier, dans le pays chez nous et dans toute cette Méditerranée Est, est-ce que c'est parce que l'origan pousse au pied des oliviers? Je ne sais pas. Mais je sais qu'à perte de vue, vous avez des collines remplies d'origan au printemps. Ce sont des couleurs vertes, chatoyantes. Et vous avez les oliviers qui fleurissent au même moment. Donc, je crois qu'il y a des accords, on va dire le langage secret des arbres et des plantes peut-être. Mais je trouve que l'huile d'olive donne du corps, donne de l'ampleur à tous ses goûts et flatte le palais, suivant sa force aussi. Il ne faut pas la prendre trop prononcée, trop forte. Ça se marie aussi bien d'ailleurs avec les huiles extraites d'olive kalamata, donc d'olive noire, que les olives vertes. Moi, je la mélange là ce matin, je voulais mélanger avec de l'huile de lourmarin. Nous passons l'été, où les saveurs de cette huile répondent très bien à la Méditerranée, je trouve.
C'est intéressant de parler de paysage, parce que c'est un peu cette sensation de croquer, en fait, un bout de terroir, en fait, un endroit tout entier.
Mais c'est exactement ça, parce que le za'atar vous ramène à un terroir. C'est un condiment qui est fait de trois ingrédients qui sont toujours les mêmes, qui sont de l'origan, du sumac, qui est un alcaloïde un petit peu acidulé qu'on transforme, ça pousse sur un arbre, c'est une épice rouge que beaucoup de grands chefs connaissent, notamment Anne-Sophie Pic, qui la met très souvent dans ses plats, et de sésame torréfié. Alors, tout le goût et toute l'intelligence du za'atar réside dans la qualité de ces trois ingrédients. Si l'origan est bio, si les fleurs sont choisi une à une plutôt que passer dans une machine par bouquet entier, évidemment la saveur va en être amplifiée, la saveur sera plus fine. Pareil pour le sumac et pareil pour la sésame. Si vous torréfiez un tout petit peu le sésame, le degré de torréfaction va vous donner des saveurs différentes pour le condiment à l'arrivée. Et si le médecin que je suis s'est intéressé à la nourriture, c'est parce que, après des années d'études, de pharmacologie, de produits et tout, je me suis rendu compte que la clé de la santé est dans l'assiette. Et le za'atar, en fait, c'est de l'origan. L'origan a des propriétés antiseptiques, il est bourré de vitamines, puisqu'aujourd'hui, on se tourne vers cette plante pour trouver des réponses aux résistances aux antibiotiques. Donc, en fait, c'est une plante qui est source de vertu, de bienfaits. Mon père, tous les matins, nous disait qu'il ouvrait l'esprit, entre guillemets, qu'il fallait qu'on mange du za'atar le matin avant d'aller à l'école pour bien assimiler les cours. Et il trouvait que le za'atar ouvrait l'esprit, donnait de la vivacité aux neurones. Il fallait absolument en prendre tous les matins. Le jour où j'ai passé mon bac, il m'a dit « Est-ce que tu as bien mangé du za'atar ?» Oui, donc de toute façon, je mangeais ça par goût. Et puis, j'ai été vérifiée avec mes 12 années de médecine. En fait, s'il a cette réputation, c'est parce qu'il est très riche en phosphore, il est très riche en vitamine du groupe B à cause du sésame. Et avec l'origan, il amène cette vivacité. L'origan contient du zinc, un peu de vitamine C. Tout ça, c'est une bombe énergétique, en fait, mais bienfaisante, pas calorique. Mmh. C'est l'huile d'olive, enfin, c'est l'huile que l'on rajoute qui le rend calorique.
Alors, origan, sésame, sumac.
Sumac.
Les proportions, j'imagine qu'elles peuvent être variables.
Absolument.
Selon l'épicier qu'on a.
Suivant la maison où on fabrique. C'est-à-dire que ça, c'est la recette de base. Mais après, il y a autant de recettes de za'atar que de familles et de façons de le préparer. Par exemple, chez nous à la maison, moi je suis née à Alep, et à Alep, la variété de za'atar contient 14 composants. On est très loin de la recette d'origine, mais après Alep, c'est la route de la soie, c'est la route des épices, c'est une ville où on adore les épices. Et dans la recette, il y a à la fois du carvi, du cumin, il y a d'autres, enfin un peu de cannelle, il y a plein de condiments qui rentrent dans la recette du za'atar. Il y a des personnes qui mettent des cacahuètes pillées, qui mettent de la noix de coco séchée. Non, chez nous à la maison, mon père le faisait lui-même et avec les trois ingrédients de base dont je vous ai parlé, il a rajouté des pistaches écalées. Il adorait la pistache.
Ça devait être délicieux.
C'est délicieux. Et il trouvait que ça se mariait très bien également à l'huile d'olive. De temps en temps, il mettait quelques noix de cajou aussi. Il me parlait déjà d'oméga 3, alors que c'était une notion qui était complètement inconnue. Il mettait des graines de courge, il mettait des graines de tournesol. Les oléagineux, en fait, apportaient un complément de vitamines à ces ingrédients de base. Après, on peut rajouter des graines de goji, on peut rajouter des demi-cacahuètes entières. Chaque personne fait le za'atar à sa façon.
L'avantage de le préparer soi-même, c'est d'être vraiment en maîtrise des différents ingrédients.
Absolument.
Parce que j'imagine qu'en version industrielle, on peut parfois trouver du za'atar avec beaucoup de temps.
Oui.
Et notamment du thym, en fait, qui va être broyé entièrement, donc avec les branches.
Absolument. Et on maîtrise surtout le sel. Vous savez, le sel est un exhausteur de goût qui est malheureusement trop largement utilisé et qui est une facilité en cuisine. C'est comme le gras et le salé en cuisine. Bon, je n'ai rien contre le gras, au contraire, ce n'est pas le souci. Mais
ça peut être des cache-misères.
Voilà, ça peut être des cache-misères. Alors, quand vous avez une formule de za'atar où la quantité d'origan est très pauvre et où l'origan de qualité n'est pas là et où il n'y a pas beaucoup de sésame, ils vont mettre, allez, on va dire une louche de sel en plus, ça va être très salé. Vous allez avoir une vague saveur de za'atar, mais ce n'est pas du tout la vraie recette.
Une saveur lointaine.
Exactement.
Qui va être ensuite, du coup, rattrapée par le sel et les petites branches, en fait, qui vont adoucir.
Et ça, les petites branches, c'est l'horreur, parce que dans les za'atars industriels qui sont pas très chers, vous allez retrouver une telle quantité de branchage d'origan qui, en séchant, vont devenir durs. Donc, qui vont se mélanger un peu aux feuilles, mais pas de façon harmonieuse. Et à l'arrivée, vous avez l'impression d'avoir du bois. Il y a d'ailleurs un adage populaire à Beyrouth qui dit « Mais ça, ce n'est pas du za'atar, ce sont des sciures de bois. Pourquoi ? Parce que la quantité de branchage a été tellement importante que finalement, ça masque le vrai goût de du produit. » Et ce que je raconte également dans le livre, c'est que, en fait, même au Liban, vous avez plusieurs variétés suivant les régions, pas seulement suivant les familles. Il y a une façon de fabriquer le za'atar qui va être différente dans les montagnes du Chouf, par exemple. Et à l'arrivée, le produit va être très différent du za'atar que vous allez trouver, par exemple, dans l'Abeka. L'origan a ça d'incroyable, ce qu'on appelle, nous, le za'atar, c'est qu'il pousse partout. Ouais. Et une chose que vous ne connaissez pas en France, c'est le za'atar frais. C'est-à-dire qui est comme une salade, en fait, que vous effeuillez. Moi, je le fais en salade avec de la tomate ou de la poudargue.
Donc, des feuilles d'origan qui sont fraîches.
Des feuilles entières, des fraîches et qu'on mange comme ça. C'est la pleine saison à partir de mi-décembre jusqu'à fin mars environ. Mais vous avez des bouquets de za'atar frais partout qu'on mange en salade. Moi, j'adore ça. Je le mets dans une salade niçoise, par exemple, pour changer, pour faire des variations. Je le mets, je fais, par exemple, un poisson grillé, puis je glisse les feuilles de za'atar dessous. C'est vraiment délicieux.
Le za'atar tel qu'on le connaît ici, donc moulu, comment on peut l'utiliser en cuisine ? Est-ce que vous avez des recettes à partager avec nous ?
Oui, bien sûr. Une simple, par exemple, tomate coupée avec un filet d'huile d'olive. Vous saupoudrez la poudre de za'atar. Vous laissez poser un peu parce qu'il faut bien que l'alliage de saveurs se fasse. Et vous mangez ça, c'est délicieux. Une baguette chaude le matin. Vous l'amenez de chez votre boulanger, vous préparez votre préparation huile d'olive avec la poudre, vous l'étalez sur la baguette, vous faites passer 2 secondes sous le grill et vous mangez ça avec un fromage de chèvre frais étalé par-dessus. Ça prend 30 secondes à faire, c'est délicieux. Une des recettes que je donne, c'est par exemple les feuilletés au za'atar. Ben, vous achetez une pâte feuilletée là où vous voulez, vous l'étalez, vous l'ouvrez bien, vous badigeonnez du mélange huile d'olive thym. Vous coupez en lanières, des deux côtés, vous tressez en torsade et vous glissez au four. Ça fait un feuilleté apéritif qui sort complètement de l'ordinaire et qui est délicieux. J'en fais même une mousse au chocolat.
Ah oui ?
Oui.
Ça doit être super bon.
Alors voilà, c'est très bon parce que c'est une base d'avocat. Vous pouvez garder le mélange une fois fait pendant 8 jours dans votre frigidaire. Vous allez épater vos invités à tous les coups. Donc, de l'avocat avec de la poudre de cacao, du sirop d'agave ou du miel. Ça dépend de vos goûts. Et puis, une bonne rasade de za'atar. Vous mélangez le tout, vous laissez poser. C'est divin.
Je trouve super intéressant ce que Noah dit à propos de la qualité des épices, qui peut être altérée quand la préparation n'est pas pure, mais qu'on y a ajouté les petites branches sans goût, hachées et utilisées juste pour grossir les quantités vendues. Parmi les très bons za'atar que Noah nous a fait goûter, il y en a un qui vient directement du Liban et qui peut s'acheter sur Internet. Il s'agit de The Good Times, Times écrit T-H-Y-M-E-S, tenu par un certain Fadi Aziz, qui travaille avec les meilleurs chefs à Beyrouth. En France, sinon, il m'arrive d'acheter du za'atar chez Délices d'Orient, à Paris, ou encore chez Saladin, à Marseille. Je vous quitte avec une idée cuisine pour valoriser l'origan de façon originale. Vous pouvez faire une huile d'origan. Pour cela, il faut remplir une petite bouteille d'huile d'olive de qualité, y ajouter de l'origan séché, puis oublier ça pendant 4 semaines dans un coin à l'abri de la lumière. Explosion de saveur assurée pour toutes vos vinaigrettes. Merci à Noah Baz et à Alessandra Pierini de nous avoir donné de leur temps pour parler d'origan. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain!